Joseph Conrad, un avant-poste du progrès. Deux Blancs avaient la charge du poste commercial. Kayertz, le chef du poste, était gras et de petite taille. Carlier, son adjoint, était grand, avec une grosse tête et un buste massif juché sur une longue paire de jambes maigres. Le personnel était complété par un nègre de Sierra Leone qui prétendait se nommer Harry Price. Toutefois, pour une raison quelconque, les indigènes en aval du fleuve lui avaient donné le nom de Makola, et ce sobriquet lui était resté au cours de toutes ses allées et venues à travers le pays. Il parlait l'anglais et le français avec une intonation chantante, avait une belle écriture, s'entendait à la tenue des livres et entretenait dans son cœur le culte des esprits malins. Sa femme était une négresse de Loanda, volumineuse et fort bavarde. Trois enfants s'épataient au soleil devant la porte de sa case, construction basse à l'allure d'étable. Makola, taciturne et impénétrable, méprisait les deux Blancs. On lui avait confié un petit magasin en pisé, surmonté d'un toit d'herbe sèche, et il prétendait tenir un compte exact des perles, de la cotonnade, des mouchoirs rouges, du fil de cuivre et autres pacotilles qui s'y trouvaient. Outre le magasin et la case de Makola, on ne voyait sur le terrain défriché du poste qu'un seul bâtiment important. Il était fait de bambou assemblé avec soin. Une véranda en faisait le tour. Ce bâtiment comportait trois pièces. Celle du milieu était la pièce commune. Il s'y trouvait deux tables grossières et quelques sièges. Les deux autres pièces étaient les chambres des Blancs. Chacune d'elles n'avait pour tout ameublement qu'un lit de camp et une moustiquaire. Le plancher était jonché de tout ce que les Blancs possédaient, malles ouvertes et à moitié vides, effets déchirés, vieilles chaussures, toutes les choses sales et toutes les choses brisées qui s'accumulent comme par enchantement autour des gens négligents. À quelque distance de ces constructions se trouvait une autre demeure. Sous une grande croix délabrée, y reposait celui qui avait projeté et surveillé la construction de cet avant-poste du progrès. Ça avait été dans son pays un peintre sans succès qui, las de poursuivre en vain la renommée, le ventre vide, s'était embarqué pour cet endroit perdu à la faveur de hautes protections. Il avait été le premier chef de ce poste. Makola avait vu mourir cet énergique artiste dans le bâtiment dont on venait tout juste d'achever la construction sans qu'il se fût départi de cette habituelle indifférence qui semblait toujours laisser entendre « Je vous l'avais bien dit ». Pendant quelque temps, Makola était resté là, seul avec sa famille, ses registres et l'esprit malin qui règne sur les terres équatoriales. Il faisait bon ménage avec son dieu. Peut-être se l'était-il rendu favorable par la promesse d'autres Blancs à duper encore à l'occasion. En tout cas, le directeur de la grande compagnie commerciale, remontant le fleuve à bord d'un petit vapeur qui ressemblait à une énorme boîte à sardines, surmontée d'un abri à toit plat, avait trouvé le poste en bon ordre et Makola déployant comme toujours une diligence paisible. Le directeur fit redresser la croix qui surmontait la tombe du premier agent et nomma Kayertz à sa place. Il lui adjoignit Carlier. Le directeur était un homme inflexible et actif qui parfois, malgré lui, laissait percer une humeur sombre. Il adressa à Kayertz et Carlier un petit discours où il leur montrait les perspectives avantageuses que leur offrait ce poste. Le comptoir le plus proche se trouvait à 300 milles de là. Ils avaient donc une occasion exceptionnelle de se distinguer et de s'assurer de bonnes commissions sur les affaires. Une telle nomination était vraiment une faveur pour des débutants. Kayertz se sentit touché aux larmes par la bienveillance du directeur. Il répondit qu'il essaierait, en faisant de son mieux, de justifier une confiance aussi flatteuse, etc. Kayertz avait appartenu à l'administration des télégraphes et savait s'exprimer correctement. Quant à Carlier, ancien sous-officier de cavalerie d'une armée garantie de tout risque par plusieurs puissances européennes, il ne se laissa pas impressionner au même point. S'il y avait des commissions à gagner, ça allait bien. Et promenant un regard maussade sur le fleuve, la forêt, l'impénétrable savane qui semblait couper le poste du reste du monde, il murmura entre ses dents « On verra ça d'ici peu ». Le lendemain, une fois jetées sur la rive quelques balles de cotonnade et quelques caisses de provisions, la boîte à sardines à vapeur s'éloigna pour ne revenir que 6 mois plus tard. Sur le pont, le directeur, la main au casque, salua les deux agents qui, debout sur la berge, agitèrent leurs coiffures et se tournant vers un vieil employé de la compagnie qui rentrait en Europe, il lui dit « Regardez-moi ces deux imbéciles. On est fou, ma parole, de m'envoyer des échantillons pareils. J'ai dit à ces deux garçons-là de planter un potager, de construire de nouveaux magasins, de nouvelles palissades et de bâtir un appontement. Je parie bien qu'ils n'en feront rien. Ils ne sauront par quel bout commencer. J'ai toujours pensé que ce poste sur le fleuve était absolument inutile, et ils sont parfaitement faits pour ce poste. « Ils se formeront ici, » répondit le vieux routier avec un sourire tranquille. « En tout cas, m'en voici débarrassé pour 6 mois, » répliqua le directeur. Les deux hommes suivirent des yeux de vapeur jusqu'au tournant du fleuve. Puis, bras dessus, bras dessous, remontant la berge, ils regagnèrent le poste. Ils n'étaient que depuis très peu de temps dans ce vaste pays ténébreux, et jusqu'alors ils s'y étaient toujours trouvés au milieu d'autres blancs et sous le regard et la surveillance de leurs supérieurs. Et maintenant, imperméables aux subtiles influences de leur entourage, ils se sentaient très seuls, livrés comme ils l'étaient à eux-mêmes en face de toute cette sauvagerie, une sauvagerie que rendait plus étrange et plus mystérieuse ce qu'on entrevoyait en elle de vigoureuse vitalité. C'étaient deux êtres parfaitement insignifiants et incapables. Deux de ces êtres dont l'existence n'est rendue possible que par la savante organisation des foules civilisées. Combien il en est peu qui comprennent que leur existence, que l'essence même de leur caractère, leurs capacités et leurs audaces ne sont que l'expression de leur croyance dans la sécurité du milieu où ils vivent. Le courage, le sang-froid, la confiance en soi, les émotions et les principes, toute pensée grande ou insignifiante relève non pas de l'individu, mais de la foule. De la foule qui croit aveuglément à l'irrésistible puissance de ses institutions et de sa morale, à la force de sa police et de son opinion. Mais le contact avec la pure sauvagerie, avec la nature primitive et avec l'homme primitif, fait naître dans le cœur un trouble soudain et profond. Au sentiment de se trouver seul de son espèce, à cette impression de solitude des pensées, des sensations qui vous sont propres, à la négation de l'habituel qui est sûr, viennent s'ajouter l'obsession de l'inconnu qui est redoutable, la hantise de choses vagues, répugnantes et incontrôlables, dont l'insinuation démoralisante excite l'imagination et accable les nerfs civilisés du sot comme du sage. Caillards et Carlier marchaient bras dessus, bras dessous, serrés l'un contre l'autre, comme des enfants dans l'obscurité. Et ils avaient ce même sentiment, qui n'est pas absolument désagréable, d'un danger qu'on soupçonne à moitié de n'être qu'imaginaire. Ils bavardaient familièrement et sans arrêt. « Notre poste est agréablement situé, » disait l'un. L'autre acquiesçait avec enthousiasme, renchérissant avec volubilité sur les beautés du site. En passant près de la tombe, « Pauvre diable !» disait Kayertz. « Il est mort de fièvre, n'est-ce pas ?» murmura Carlier en s'arrêtant brusquement. « Comment ?» répliqua Kayertz avec indignation. « On m'a dit qu'il ne cessait de se fourrer au soleil. Le climat ici, à ce qu'on dit, n'est pas pire que chez nous, du moment qu'on se tient à l'abri du soleil. « Vous entendez, Carlier, je suis le chef ici, et je vous donne l'ordre de ne pas vous fourrer au soleil. » Il faisait, en plaisantant, état de la supériorité de son grade, mais l'intention y était. L'idée qu'il lui faudrait peut-être enterrer Carlier et rester seul lui donna le frisson. Il eut soudain le sentiment que ce Carlier lui était plus précieux ici, au centre de l'Afrique, qu'un frère n'eût pu l'être partout ailleurs. Carlier, entrant dans l'esprit de la chose, fit le salut militaire et répondit avec vivacité « On vous obéira, chef !» Puis il éclata de rire, envoya une bourrade dans le dos de Kayertz et s'écria « On va se la couler douce ici. Suffit de se reposer et de ramasser l'ivoire que ces sauvages vont nous apporter. Ce pays a du bon, après tout. » Ils se mirent l'un et l'autre à rire à haute voix, tandis que Carlier pensait « Ce pauvre Kayertz, avec sa mauvaise graisse !» Ce serait un sale coup s'il fallait que je l'enterre ici. C'est un homme que je respecte. » Ils n'avaient pas atteint la véranda de leur maison qu'ils s'appelaient l'un l'autre « mon vieux ». Le premier jour, ils déployèrent une grande activité, allant et venant avec des marteaux, des clous et du calicot rouge pour accrocher des rideaux, rendre leur maison habitable et coquette, résolus à apporter le plus de confort possible à leur nouvelle existence. Impossible tâche pour eux. S'attaquer à des problèmes même purement matériels demande plus de sérénité d'esprit et de ferme énergie qu'on ne se l'imagine d'ordinaire. on eût trouvé malaisément deux êtres moins propres à cette lutte. La société, non pas par l'effet d'une tendresse particulière, mais du fait même de ses singulières nécessités, avait pris soin de ces deux hommes, leur avait interdit toute pensée indépendante, toute initiative, toute infraction à la routine, et le leur avait interdit sous peine de mort. Ils ne vivaient qu'à condition d'être des machines. Et maintenant, privés de la tutelle des gens armés d'une plume derrière l'oreille ou ornés de galons d'or sur les manches, ils ressemblaient à ces prisonniers à perpétuité qui, libérés après bien des années, ne savent plus que faire de leur liberté. Ils ne savaient que faire de leur faculté, incapables qu'ils étaient l'un et l'autre, par manque de pratique, de penser par eux-mêmes. Au bout de 2 mois, Kayartz déclara à plusieurs reprises « Si ce n'était pas pour ma Mélie, on ne me verrait pas longtemps ici. » Mélie était sa fille. Pour pouvoir lui constituer une dot, il avait quitté son emploi à l'administration des télégraphes, où il avait été pourtant parfaitement heureux pendant 17 ans. Sa femme était morte et l'enfant avait été confié aux soins de ses tantes. Il regrettait les rues, les trottoirs, les cafés, ses vieux amis. Tout ce qu'il avait l'habitude de voir chaque jour, toutes les pensées que lui inspirait la vue des choses familières, les pensées faciles, monotones, apaisantes, d'un employé de gouvernement. « Si mon beau-frère avait été un garçon convenable, déclarait Carlier, un homme de cœur, je ne serais pas ici. » Il avait quitté l'armée et s'était rendu si odieux à sa famille par sa paresse et son impudence qu'un beau-frère exaspéré avait remué ciel et terre pour lui procurer cette place d'agent de seconde classe de la compagnie. Comme il n'avait pas un sou vaillant, force lui avait bien été d'accepter ce gagne-pain lorsqu'il se fut convaincu qu'il n'y avait absolument plus rien à tirer de sa famille. Lui aussi, comme Kayertz, il regrettait son ancienne existence. Il regrettait le cliquetis du sabre et les éperons, par une belle après-midi, les plaisanteries de la chambrée, les filles des garnisons. Mais il avait en outre un sentiment d'aigreur. Il n'était pas à sa vraie place, et cela lui donnait de temps à autre des accès de mauvaise humeur. Mais la communauté de leur stupidité et de leur paresse créait une entente entre ces deux hommes. L'un et l'autre ne faisaient absolument rien et jouissaient d'une oisiveté rétribuée. Ils en arrivèrent même à éprouver l'un pour l'autre quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Ils vivaient comme des aveugles dans une vaste pièce, n'ayant conscience que de ce qui entrait en contact direct avec eux, et encore imparfaitement, mais incapables de saisir l'aspect général des choses. Le fleuve, la forêt, toute cette étendue de terre grouillante de vie, n'était pour eux qu'une vaste solitude. Le soleil éclatant ne leur révélait rien d'intelligible. Tout apparaissait et disparaissait devant leurs yeux, sans suite et sans but. Le fleuve leur semblait venir de nulle part, aller nulle part. Il coulait dans le vide. Parfois, de ce vide sortaient des pirogues et des hommes, la lance à la main, envahissaient tout à coup la cour du poste. Ils étaient nus, noirs et luisants, bien proportionnés et portaient en guise d'ornement des coquillages blancs et des rangées de fils de laiton étincelants. Le bruit de leurs paroles était comme un babil étrange. Leur allure était imposante et de leurs yeux étonnés et mobiles, ils lançaient des regards brusques et farouches. Ces guerriers s'accroupissaient en longue file sur 4 rangs et plus devant la véranda, tandis que leur chef marchandait pendant des heures avec Makola le prix d'une défense d'éléphant. De son fauteuil, Kayertz suivait le débat sans rien comprendre. Il les regardait en écarquillant ses yeux bleus et appelait Carlier. « Dites donc, regardez-moi ce gaillard là-bas. Et cet autre à gauche. Avez-vous jamais vu une tête pareille? Quel drôle d'animal !» Carlier s'amenait tout en fumant du tabac indigène dans une courte pipe en bois, prenait des pauses, frisait sa moustache et, examinant ses guerriers d'un air condescendant, il disait « De beaux animaux !» Ils ont apporté de l'ivoire, oui, ce n'est pas trop tôt. Regardez-moi les muscles de celui-là, le troisième au bout de cette rangée. Je ne tiendrai pas à recevoir de lui un coup sur le nez. Les bras sont bien, mais les jambes mauvaises, au-dessous du genou. Rien à faire de cela dans la cavalerie. Puis, après avoir jeté un regard complaisant sur ses propres mollets, il concluait généralement en disant « Bon Dieu, ce qu'ils en pestent ! Hé, Makola ! Conduis-moi toute cette bande-là au fétiche. » Dans chaque poste, on désignait ainsi le magasin, à cause sans doute de l'esprit de la civilisation qu'il contenait. Et donne-leur un peu de la camelote que tu y conserves. J'aime mieux savoir le magasin plein d'os que de chiffon. Gaillards approuvait. « Oui, oui, allez me terminer ce palabre là-bas, monsieur Macola. Je vous rejoindrai quand vous serez prêt pour peser les défenses. » Il faut ouvrir l'œil. Puis, se tournant vers son compagnon, « C'est la tribu qui vit plus bas sur le fleuve. Ils sont plutôt odorants. Je me rappelle, ils sont déjà venus une fois. Vous entendez ce vacarme? Ce qu'il faut supporter dans ce chien de pays, j'en ai la tête cassée. » Ces visites lucratives étaient rares. Pendant des jours, ces deux pionniers du commerce et du progrès pouvaient contempler la cour déserte du poste sous l'étincellement d'un soleil vertical. Au pied de la haute berge, le fleuve silencieux coulait égal et scintillant. Sur des bancs de sable, au milieu du courant, côte à côte, les hippopotames et les alligators se chauffaient au soleil. Et autour de l'infime coin de terre défriché du poste, d'immenses forêts, recélant les redoutables complications d'une vie fantastique, étendaient le silence éloquent d'une immensité muette. Les deux hommes ne comprenaient rien, ne se souciaient de rien, si ce n'est de l'écoulement des jours qui les séparait du retour du vapeur. Leur prédécesseur avait laissé quelques livres dépenaillés. Ils ramassèrent ces épaves de romans, et n'ayant encore jamais rien lu de ce genre, ils en furent surpris et amusés. Et ce furent, durant de longs jours, d'interminables discussions à propos de l'intrigue et des personnages. Au centre de l'Afrique, ils firent la connaissance de Richelieu et de D'Artagnan, d'Œil de Faucon et du père Goriot, et de beaucoup d'autres gens. Tous ces personnages d'imaginaire leur devinrent des sujets de conversation comme s'ils eussent été des amis véritables. Ils dénombraient leurs vertus, discutaient leurs intentions, dénigraient leurs succès, se scandalisaient de leur duplicité ou doutaient de leur courage. Le récit des crimes les remplissait d'indignation, tandis que les passages tendres et pathétiques les remuaient profondément. Carlier, se raclant la gorge, disait d'un ton militaire « En voilà des bêtises !» Gaillards, ses grosses joues tremblotantes, les larmes aux yeux, passait la main sur son crâne chauve et déclarait « C'est un livre magnifique. Je ne pensais pas qu'il existait des gens avec autant de talent au monde. » Ils dénichèrent aussi quelques vieux numéros d'un journal de leur pays. On y discutait, en termes emphatiques, ce qu'on se plaisait à appeler notre expansion coloniale. On y parlait abondamment des droits et des devoirs de la civilisation, du caractère sacré de la mission civilisatrice, et l'on y célébrait les mérites de ceux qui s'expatriaient pour porter la lumière, la foi et le commerce dans des contrées envahies par les ténèbres de la barbarie. Carlier et Kayartz lurent ces articles, s'extasièrent, eurent une meilleure idée d'eux-mêmes. Un soir, Carlier, en faisant un grand geste, déclara à Kayartz « Dans 100 ans, il y aura peut-être une ville ici, des quais, des magasins, des casernes, et des billards. La civilisation et la vertu, et tout. » Et alors on dira que deux braves types, Kayartz et Carlier, ont été les premiers civilisés à vivre dans cet endroit. Kayartz fit un geste d'assentiment. « Oui, dit-il, c'est une consolation que de penser à cela. » Ils semblaient oublier leur défunt prédécesseur. Mais un jour, Carlier sortit pour consolider la croix. « Ça me faisait loucher de la voir de travers comme ça, chaque fois que je passais par là, » expliqua-t-il à Kayartz en prenant leur café du matin. « Aussi, je l'ai enfoncé bien droit. Et solidement, je vous le promets. Je m'y suis suspendu des deux mains, ça n'a pas bougé. J'ai fait cela dans les règles. » De temps à autre, Gobila venait leur rendre visite. Gobila était le chef des villages avoisinants. C'était un sauvage à tête grise, noir et maigre. Il portait un pagne blanc autour des reins et une peau de panthère pelée lui battait dans le dos. Il s'avançait à longues enjambées de squelette en balançant un bâton aussi haut que lui et pénétrant dans la salle commune du poste, il s'accroupissait à gauche de la porte. Il demeurait là à observer Kayertz et se lançait de temps à autre dans une harangue à laquelle l'autre ne comprenait rien. Kayertz, sans interrompre ses occupations, lui disait de temps à autre d'un ton amical « Comment ça va, vieille caricature ?» et ils échangeaient un sourire. Les deux blancs affectionnaient cette vieille et incompréhensible créature et l'appelaient le père Gobila. Gobila avait des manières paternelles et semblait réellement aimer tous les blancs. Ils lui semblaient tous très jeunes, impossible à distinguer l'un de l'autre, si ce n'est par la taille. Et il savait qu'ils étaient tous frères et en outre immortels. La mort de l'artiste, le premier blanc qu'il eût connu intimement, n'avait pas ébranlé sa conviction, car il était fermement convaincu que cet étranger avait fait semblant de mourir et s'était enterré lui-même pour une raison mystérieuse qu'il était inutile d'approfondir. Peut-être était-ce là sa façon de retourner chez lui. En tout cas, ces deux-ci étaient ses frères, et il reporta sur eux son absurde affection. Il la lui rendait, en quelque sorte. Cardier lui donnait des tapes amicales dans le dos et, pour l'amuser, enflammait nonchalamment des allumettes. Quant à Kayertz, il lui laissait toujours renifler la bouteille d'ammoniac. Bref, il se conduisait exactement comme l'autre blanc qui s'était caché dans un trou sous terre. Gobila les observait attentivement. Peut-être était-ce les mêmes que l'autre, ou l'un des deux était-il le même. Il ne pouvait avoir là-dessus d'opinion arrêtée, éclaircir ce mystère, mais il n'en demeurait pas moins toujours très amical. Grâce à cette amitié, les femmes du village de Gobila, s'engageant à la file indienne dans les hautes herbes, apportaient chaque matin au poste de la volaille, des patates, du vin de palme et quelquefois une chèvre. La compagnie n'approvisionnait jamais complètement les postes et les agents avaient besoin pour vivre de ces ravitaillements locaux. Ceci le devait à la bienveillance de Gobila et vivait grassement. De temps à autre, l'un d'eux avait une attaque de fièvre et l'autre le soignait avec un dévouement affectueux. Il ne s'en inquiétait guère. Ses accès pourtant les affaiblissaient. Leur aspect s'altérait. Cardier avait les yeux caves et devenait irritable. Kayertz, au-dessus de la rotondité de son ventre, montrait un visage flasque qui lui donnait un aspect étrange. Mais à vivre toujours ensemble, ils ne remarquaient pas le changement graduel qui se faisait dans leur apparence et aussi dans leur caractère. 5 mois s'écoulèrent ainsi. Un matin, comme Kayertz et Carlier, allongés dans leur fauteuil sur la véranda, parlaient de la visite prochaine du vapeur, un groupe d'hommes armés sortit de la forêt et s'avança vers le poste. Ils appartenaient à une tribu étrangère à cette partie du pays. Ils étaient de haute taille, sveltes, drapés à la manière antique, de manteaux bleus à franges qui leur tombaient du cou jusqu'aux pieds, et ils portaient sur leur épaule droite découverte des fusils à piston. Makola laissa paraître des signes d'agitation et sortit précipitamment du magasin où il passait ses journées pour aller au-devant de ses visiteurs. Ils s'avancèrent jusqu'à la cour du poste en jetant autour d'eux des regards farouches et méprisants. Leur chef, un nègre robuste à l'air résolu et aux yeux injectés de sang, se plaça devant la véranda et prononça une longue harangue. Pendant ce temps, il ne cessa de gesticuler, puis s'arrêta brusquement. Il y avait dans son intonation, dans la sonorité de ses longues phrases, quelque chose qui effraya les deux blancs. Cela leur rappelait un accent sinon familier, du moins assez proche de celui des gens civilisés. Il leur semblait entendre un de ces impossibles langages qu'on entend parfois en rêve. « Qu'est-ce que c'est que ce baragouin ?» demanda Carlier, surpris. « J'ai cru d'abord que cet individu se mettait à parler en français. C'est en tout cas un jargon différent de celui que nous avons jamais entendu. »« En effet, » répondit Kayertz. « Hé, Makola, qu'est-ce qu'il raconte ? D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ?» Mais Makola, qui semblait sur des charbons ardents, répondit précipitamment « Je ne sais pas. Ils viennent de très loin. Peut-être que Madame Price les comprend. » Ce sont peut-être des gens dangereux. » Le chef de la bande, après avoir attendu un moment, interpella brusquement Makola qui secoua la tête. Alors l'homme, après avoir regardé autour de lui et avoir aperçu la case de Makola, se dirigea de ce côté. On entendit bientôt Madame Makola parler avec une grande volubilité. Les autres étrangers, ils étaient 6 en tout, allaient et venaient d'un air dégagé. Ils passèrent la tête par la porte du magasin, s'assemblèrent autour de la tombe en désignant la croix d'un air entendu, faisant en somme comme chez eux. « Je n'aime pas ces gens-là, et à mon avis, Kayertz, ils doivent venir de la côte. Ils ont des armes à feu, » remarqua Carlier avec sagacité. Ces gens-là déplaisaient également à Kayertz. Pour la première fois, ils avaient l'un et l'autre conscience de vivre dans des conditions où l'inattendu pouvait devenir dangereux. Et ils comprenaient qu'il n'y avait d'autre puissance au monde qu'eux-mêmes, entre eux-mêmes et l'imprévu. L'inquiétude s'empara d'eux, ils rentrèrent et chargèrent leurs revolvers. Il faut donner l'ordre à Makola de les faire partir avant la nuit, dit Kayertz. Les étrangers partirent dans l'après-midi, après avoir mangé la nourriture préparée par Madame Makola. La grosse femme paraissait fort animée et n'avait cessé de parler avec les visiteurs. Elle bavardait d'une voix perçante, désignant tantôt la forêt, tantôt le fleuve. Makola se tenait à l'écart et les observait. À plusieurs reprises, il se leva pour murmurer quelques mots à l'oreille de sa femme. Il accompagna les étrangers de l'autre côté du ravin, derrière la cour du poste, et revint à pas lents, l'air pensif. Quand les Blancs le questionnèrent, il prit un air étrange, affecta de ne pas les comprendre, eut l'air de ne plus savoir le français, sembla même avoir perdu l'usage de la parole. Kayertz et Carlier furent d'accord pour penser que le nègre avait bu trop de vin de palme. Ils parlèrent de monter la garde à tour de rôle, mais le soir venu, tout sembla si paisible et si tranquille qu'ils se retirèrent dans leur chambre comme d'habitude. Toute la nuit, leur sommeil fut troublé par un battement prolongé de tam-tam dans les villages environnants. Un roulement proche, sourd et rapide, était suivi d'un autre plus distant, puis tout cessa. Peu après, des appels brefs retentirent çà et là, puis s'unirent, s'accrurent, devinrent nourris et continus, se répandirent dans la forêt, roulant dans la nuit, sans relâche, lointains et rapprochés, comme si la contrée tout entière n'eût été qu'un immense tam-tam, grondant violemment son appel vers le ciel. Et au milieu de ce bruit sourd et terrible, éclataient des hurlements soudains, qui ressemblaient à des bribes de chansons de fous, lançaient leurs notes discordantes, et semblaient s'élever très haut au-dessus de la terre et bannir toute paix sous les astres. Carlier et Kayertz dormirent mal. Ils crurent l'un et l'autre avoir entendu des coups de feu durant la nuit, mais ne s'accordèrent pas sur la direction d'où ils venaient. Durant la matinée, Makola disparut. Il revint vers midi avec un des étrangers de la veille et déjoua toutes les tentatives de Kayertz pour l'approcher. Il semblait être devenu sourd. Kayertz s'en montra surpris. Carlier, qui avait été pêché le long de la rive, revint, et comme il montrait son butin, il déclara « Les nègres ont l'air diablement agités. Je me demande ce qui se passe. J'ai vu une quinzaine de pirogues traverser le fleuve pendant les 2 heures que j'ai passées à la pêche. » Kayertz, inquiet, lui dit « Est-ce que Makola ne vous semble pas bizarre aujourd'hui ?» Et Carlier lui répondit par ce conseil « Rassemblez tous nos hommes en prévision de quelques difficultés. » 10 porteurs amenés par le directeur avaient été affectés au service du poste. Engagés envers la compagnie pour une durée de 6 mois, sans avoir la moindre idée de la durée d'un mois, ni plus qu'une notion très vague du temps en général, ils servaient la cause du progrès depuis plus de 2 ans. Comme ils appartenaient à une tribu vivant dans un endroit fort éloigné de cette région de ténèbres et de tristesse, ils ne s'étaient pas enfuis, persuadés avec raison que leur qualité d'étrangers les exposerait à se voir massacrés par les gens du pays. On leur avait construit des cases sur la pente d'un ravin, derrière les bâtiments du poste. Ils n'étaient pas heureux. Ils regrettaient les solennelles incantations, les sorcelleries, les sacrifices humains de la terre natale, où ils avaient eux aussi des parents, des frères, des sœurs, des chefs réputés, des magiciens respectés, des amis très chers, et tous les liens qu'implique l'humanité même. En outre, les rations de riz que leur allouait la compagnie ne leur convenaient guère. C'était une nourriture inconnue dans leur pays et à laquelle ils ne s'habituaient pas. Leur santé et leur humeur s'en ressentaient. Eussent-ils appartenu à une autre tribu, ils auraient fait en sorte de mourir, car rien n'est plus aisé à certains sauvages que de se suicider, et ils eussent échappé ainsi aux complications de l'existence. Mais comme ils appartenaient à une peuplade guerrière aux dents élimées, ils étaient mieux trempés et s'obstinaient stupidement à vivre en dépit de la maladie et de la tristesse. Ils faisaient fort peu d'ouvrage et avaient déjà beaucoup perdu de leur belle apparence. Carlier et Kayertz les soignaient avec assiduité sans parvenir à leur rendre la santé. On les passait en revue tous les matins et on leur attribuait diverses tâches, couper de l'herbe, construire des palissades, abattre des arbres, etc., qu'aucune puissance au monde ne pouvait leur faire faire convenablement. En vérité, les 2 Européens n'avaient pour ainsi dire pas d'action sur eux. Dans l'après-midi, Makola apparut au bâtiment des Blancs et trouva Kayerts en train d'observer trois épaisses colonnes de fumée qui s'élevaient au-dessus de la forêt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» interrogea Kayerts. « Des villages qui brûlent, » répondit Makola, qui semblait avoir recouvré ses esprits. Puis il ajouta à brûle-pourpoint, « Nous n'avons pas eu beaucoup d'ivoire. 6 mois de mauvaises affaires. Voudriez-vous avoir un peu plus d'ivoire ?»« Assurément, » répondit Kayerts aussitôt. Il pensait aux commissions qui n'étaient pas grosses. « Ces gens qui sont venus hier sont des trafiquants de Loanda qui ont récolté plus d'ivoire qu'ils n'en peuvent remporter chez eux. Dois-je le leur acheter ?» « Je connais leur campement. »« Certainement, » fit Kayerts. « Comment sont-ils, ces trafiquants ?»« De mauvaises têtes, » répondit Makola d'un air indifférent. « Ils sont batailleurs, enlèvent les femmes et les enfants. Ce sont de mauvaises têtes et ils ont des fusils. Toute la région est en effervescence. Voulez-vous de l'ivoire ?»« Oui, » dit Kayerts. » Makola resta un moment sans rien dire, puis il murmura, en regardant autour de lui, « Nos travailleurs ne sont bons à rien. Le poste n'est pas en bon état, monsieur. Le directeur va grogner. Il vaudrait mieux avoir une bonne quantité d'ivoire, alors il ne dirait rien. »« Je n'y peux rien. Les âmes ne veulent pas travailler, » dit Kayerts. « Quand auras-tu cet ivoire ?»« Bientôt, » répondit Makola. « Peut-être cette nuit. Laissez-moi faire et restez dans la maison. Je crois qu'il vaut mieux donner du vin de palme à nos hommes afin qu'ils dansent ce soir. » Qu'ils s'amusent. Ils travailleront mieux demain. Le vin de palme ne manque pas. Il est devenu un peu sûr. » Kayerts acquiesça, et Makola, de ses propres mains, porta les grosses calebasses jusqu'à la porte de sa case. Elles y restèrent jusqu'au soir, et Madame Makola jeta un coup d'œil dans chacune d'elles. On les donna aux hommes au coucher du soleil. Quand Kayerts et Carlier se retirèrent, un grand feu de joie flambait devant les cases des porteurs. On entendait leurs cris et leurs tam-tam. Quelques hommes du village de Gobila s'étaient joints à eux, et la fête était un vrai succès. Au milieu de la nuit, Carlier, réveillé en sursaut, entendit un homme crier de toutes ses forces, puis une détonation. Il s'élança dehors et rencontra Kayerts sur la véranda. Ils étaient aussi effrayés l'un que l'autre. En traversant la cour pour appeler Makola, ils distinguèrent des ombres qui passaient dans la nuit. L'une d'elles cria « Ne tirez pas !» « C'est moi, Price !» Et Makola apparut tout près d'eux. « Rentrez, rentrez » dit-il précipitamment. « Vous gâtez toute l'affaire. »« Il y a des étrangers par ici, » dit Carlier. « Ne vous inquiétez pas, je sais, » répondit Makola. Puis il murmura, « Tout va bien. On apporte l'ivoire. Ne dites rien, je connais mon affaire. » Les deux blancs se résignèrent à rentrer, mais ils ne purent pas dormir. Ils entendirent des pas, des murmures, des gémissements. On eût dit qu'une troupe d'hommes arrivait, les séchoirs par terre de lourdes charges, se querellaient un bon moment, puis s'éloignaient. Étendus sur leur lit de camp, ils pensaient « Ce Makola n'a pas son pareil ». Au matin, Carlier sortit, encore endormi, et tira la corde de la grosse cloche au son de laquelle les porteurs se rassemblaient chaque jour. Ce matin-là, personne ne se montra. Kayerts apparut en bâillant. De l'autre côté de la cour, ils virent Makola sortir de sa case, une cuvette d'eau savonneuse à la main. Makola, nègre civilisé, était très soigneux de sa personne. Il renversa adroitement l'eau de savon sur un malheureux roquet jaune qu'il avait, puis, tournant la tête vers la maison du chef de poste, il cria de loin « Tous les hommes ont filé cette nuit !» Ils ne furent pas longs à comprendre, mais, dans leur surprise, ils crièrent tous les deux ensemble « Quoi ?» Puis ils s'entre-regardèrent. « Nous voilà propres !» grogna Carlier. « C'est incroyable !» murmura Kayerts. « Je vais aller voir les cases !» reprit Carlier en s'éloignant à grands pas. Makola, en montant à l'habitation, trouva Kayerts seul. « Je puis à peine le croire !» dit celui-ci tout ému. « Nous avons pris soin d'eux comme si c'étaient nos enfants. »« Ils sont partis avec les gens de la côte !» reprit Makola après un moment d'hésitation. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse avec qui ils sont partis, ces brutes ingrates ?» s'écria Kayerts. Puis, pris d'un soupçon soudain, et fixant Makola, il ajouta « Qu'est-ce que tu en sais ?» Makola haussa les épaules, les yeux à terre. « Ce que j'en sais, je suppose seulement. Voulez-vous venir voir l'ivoire que j'ai là-bas ? Il y en a une bonne quantité. Vous n'en avez jamais vu autant. » il se dirigea vers le magasin. Kayers le suivit machinalement, tout en songeant à l'incroyable désertion des hommes. Par terre, à la porte du fétiche, il vit six magnifiques défenses d'éléphants. « Combien as-tu payé cela ? » dit-il après avoir examiné le lot avec satisfaction. « Ce n'est pas une affaire, » répondit Makola. « Ils m'ont apporté de l'ivoire et me l'ont donné. Je leur ai dit de prendre ce qui leur plairait le plus dans le poste. C'est un lot magnifique. Il n'y a pas d'autre poste qui puisse montrer de l'ivoire pareil. Ces gens-là avaient grand besoin de porteurs, et nos hommes ne nous servaient à rien ici. Ce n'est pas une affaire, pas d'entrée dans les livres. Tout est en règle. » Kayertz manqua éclater d'indignation. « Hein ? Quoi ? » hurlait-il. « Tu as vendu nos hommes pour cet ivoire ?» Makola demeurait impassible et silencieux. « Je bégaya Kayertz. « Démon ! » hurla-t-il enfin. « J'ai fait de mon mieux pour vous et la compagnie, » répondit Makola imperturbablement. « Pourquoi criez-vous si fort ? Regardez-moi ces défenses. Je te chasse, je te dénoncerai. Je ne veux pas regarder cet ivoire. Je te défends de le toucher. Tu vas me jeter tout cela à l'eau, espèce de... » Vous êtes très rouge, monsieur Kayertz. Si vous vous fâchez comme cela en plein soleil, vous allez attraper la fièvre et mourir, comme le premier chef, » déclara Makola d'un ton convaincu. Ils demeurèrent immobiles, se considérant l'un l'autre, les pupilles dilatées, comme s'ils s'efforçaient de regarder à travers une immense distance. Kayertz frissonna. Makola avait parlé sans arrière-pensée, mais ses paroles semblaient à Kayertz lourdes de menaces. Il se retourna brusquement et se dirigea vers la maison. Makola se retira au sein de sa famille, et les défenses d'ivoire, abandonnées devant le magasin, semblaient, au soleil, énormes et précieuses. Carlier reparut sur la véranda. « Ils sont tous partis, hein ?» lui dit à voix étouffée Kayertz du fond de la salle commune. « Vous n'avez trouvé personne ?»« Oh si !» répondit Carlier. « J'ai trouvé un des gens de Gobila mort devant les cases, tué d'une balle à travers le corps. Nous avons entendu ce coup de fusil cette nuit. » Kayertz sortit précipitamment. Il trouva en rentrant son compagnon qui, du haut de la véranda, regardait d'un air farouche les défenses à l'autre bout de la cour, près du magasin. Ils s'assirent et restèrent quelque temps silencieux. Puis Kayertz raconta la conversation qu'il avait eue avec Makola. Carlier ne répondit rien. Au repas du midi, ils mangèrent fort peu. Et ce jour-là, c'est à peine s'ils échangèrent quelques paroles. Un grand silence semblait peser lourdement sur le poste et leur sceller les lèvres. Makola n'ouvrit pas le magasin. Il passa sa journée à jouer avec ses enfants. Il s'étendit de tout son long sur une natte à sa porte, et les petits s'asseyaient sur sa poitrine et lui grimpaient sur tout le corps. C'était un tableau touchant. Quant à Madame Makola, elle passa toute sa journée à sa cuisine comme d'habitude. Les deux blancs firent un meilleur repas le soir. Après le dîner, Carlier, la pipe à la bouche, s'achemina vers le magasin. Il resta un moment à regarder les défenses, en toucha du pied une ou deux, essaya même de soulever la plus grosse en la prenant par la pointe. Il revint vers son chef, qui n'avait pas bougé de la véranda, se laissa tomber dans un fauteuil et s'écria « C'est clair ! On s'est jeté sur eux pendant qu'ils dormaient à point fermé, après avoir bu tout ce vin de palme que vous avez laissé Makola leur donner. C'était un coup monté. Vous comprenez ? Le pire est qu'il y avait aussi quelques-uns des gens de Gobila qu'on a dû enlever également. Le moins ivre d'entre eux se sera réveillé et sa sobriété lui aura valu d'être abattu. Charmant pays, que comptez-vous faire maintenant ?
Nous ne pouvons pas toucher à cet ivoire, cela va sans dire, répondit Kayertz.
Assurément, répliqua Carlier.
L'esclavage est une chose épouvantable, balbutia Kayertz d'une voix mal assurée.
Effrayante, les misères que... grommela Carlier avec conviction. Il pensait ce qu'il disait. Tout le monde marque une respectueuse déférence à l'égard de certaines paroles que le prochain ou soi-même prononce. Mais pour ce qui est des sentiments, c'est une autre affaire. Nous parlons avec indignation ou avec enthousiasme. Nous parlons d'oppression, de cruauté, de crime, de dévouement, de sacrifice, de vertu,
mais cela ne correspond à rien de réel en dehors des mots. Personne ne sait ce que la souffrance ou le sacrifice signifie, excepté peut-être les victimes du dessein mystérieux de ces illusions. Le jour suivant, ils virent Makola occupé à installer dans la cour les grandes balances qui servaient à peser l'ivoire. Carlier finit par dire « Qu'est-ce qu'il lui prend à ce coquin ?» Et d'un pas traînant, il se dirigea vers la cour. Kayerts le suivit. Ils restèrent à le regarder. Makola n'y prit aucune attention. Une fois la balance en place, il essaya de placer une des défenses sur le plateau. Elle était trop lourde. Sans dire un mot, il leva un regard découragé, et pendant une minute, ils restèrent autour de la balance, aussi muets et immobiles, tous les trois, que des statues. Tout à coup, Carlier s'écria « Prends-moi l'autre bout, Makola, espèce d'animal !» Et du même coup, ils enlevèrent la défense sur le plateau. Kayerts tremblait de tous ses membres. Il murmura « Voyons, voyons !» et mettant la main dans sa poche, il trouva un bout de papier sale et un bout de crayon. Il tourna le dos aux autres, comme s'il se fût préparé à leur jouer un vilain tour, et inscrivit furtivement les poids que Kayerts lui appelait en élevant inutilement la voix. Quand la pesée fut faite, Makola marmotta entre ses dents « Il y a trop de soleil ici pour l'ivoire. » Et Carlier dit à Kayerts d'un ton nonchalant « Dites-moi, chef, je pourrais peut-être lui donner un coup de main pour rentrer cela dans le magasin. » En retournant à leur habitation, Kayerts dit en soupirant « Il fallait bien le faire. » À quoi Carlier répondit « C'est déplorable, mais puisque les hommes appartenaient à la compagnie, cet ivoire est l'ivoire de la compagnie. Il faut bien que nous en prenions soin. » « Je ferai mon rapport au directeur, bien entendu, » reprit Kayerts. « Naturellement, » approuva Carlier, « c'est à lui de décider. » À midi, ils mangèrent de fort bon appétit. De temps à autre, Kayerts soupirait. Quand il leur arriva de prononcer le nom de Makola, ce fut en y accolant une épithète injurieuse. Cela soulageait leur conscience. Makola s'était donné une demi-journée de congé et baignait ses enfants dans le fleuve. Personne ne vint des villages de Gobila jusqu'au poste ce jour-là. Personne ne vint le jour suivant, ni le surlendemain, ni de toute la semaine. Les gens des villages de Gobila auraient aussi bien pu être tous morts et enterrés. Ils ne donnèrent aucun signe de vie. La vérité est qu'ils pleuraient ceux qu'ils avaient perdus par la sorcellerie des Blancs, coupables d'avoir amené de méchantes gens dans leur pays. Les méchantes gens étaient partis, mais la peur persistait. La peur persiste toujours. Un homme peut tout étouffer en lui, l'amour et la haine et la foi, et même le doute, mais aussi longtemps qu'il sacrifie la vie, il n'étouffera pas la peur. La peur subtile, indestructible et terrible qui envahit son être, qui colore ses pensées, qui se blottit dans son cœur, et guette encore sur ses lèvres l'effort de son dernier soupir. Dans sa terreur, le vieux et débonnaire Gobila offrit de nouveaux sacrifices humains aux esprits malfaisants qui s'étaient emparés de ses amis les Blancs. Son cœur était bien lourd. Quelques-uns de ses guerriers lui conseillaient le meurtre et l'incendie, mais sa vieille prudence de sauvage les en dissuada. Qui pouvait prévoir les malheurs que ces mystérieuses créatures allaient déchaîner si on les irritait? Mieux valait ne pas les approcher. Peut-être, avec le temps, disparaîtrait-il dans la terre comme le premier avait disparu. Et il donna l'ordre à son peuple de ne pas s'approcher du poste et d'attendre des temps meilleurs. Kayerts et Carlier ne disparurent pas. Ils restaient au-dessus de cette terre qui leur semblait être devenue, en quelque sorte, plus grande et très vide. Ce n'était pas tant l'absolue et muette solitude du poste qui les frappait que le vague sentiment d'avoir perdu quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose qui travaillait pour leur sécurité et avait empêché cette solitude de leur troubler le cœur. Les images du pays natal, le souvenir de leurs semblables, de gens qui pensaient et sentaient comme eux, s'estompaient dans un éloignement que rendait indistinct l'éclat de cet implacable soleil. Et du sein de ce grand silence de la solitude qui les environnait, le désespoir et la sauvagerie même semblaient se rapprocher, les attirer doucement, les considérer, les enveloppait d'une sollicitude irrésistible, familière et odieuse. Les journées s'allongèrent en semaines, les semaines en mois. Les gens de Gobila tambourinaient, hurlait à chaque nouvelle lune, comme auparavant, mais ne s'approchait plus jamais du poste. Macola et Carlier tentèrent bien une fois, en pirogue, d'établir des communications, mais ils furent accueillis par une grêle de flèches et ils durent se rabattre au plus vite vers le poste. Cette tentative eut pour effet de mettre les pays riverains dans une effervescence dont l'écho parvint pendant des jours jusqu'au poste. Le vapeur était en retard. Ce retard dont ils parlèrent d'abord légèrement leur devint une cause d'inquiétude puis d'angoisse. La situation devenait grave. Les vivres s'épuisaient. Carlier tendit des lignes tout le long de la berge, mais le fleuve était bas et le poisson suivait le chenal. Il n'osait pas s'aventurer trop loin du poste pour chasser. D'ailleurs, le gibier faisait défaut dans cette impénétrable forêt. Un jour, Carlier abattit un hippopotame sur le fleuve. Il n'avait pas d'embarcation pour s'en emparer, et il coula. Quand il reparut à la surface, il s'en alla à la dérive, et les gens de Gobila s'emparèrent de la carcasse. Ce fut pour eux l'occasion d'une fête nationale. Mais Carlier en eut un accès de rage et parla d'exterminer tous les nègres pour rendre le pays habitable. Kayerts flânait en silence. Il passait des heures en contemplation devant le portrait de sa Mélie. C'était une petite fille avec de longues tresses blondes et une physionomie boudeuse. Les jambes de Kayerts enflèrent. Il put à peine marcher. Carlier, miné par la fièvre, ne fanfaronnait plus, mais il continuait à aller et venir d'un pas alangui, sans se départir de cet air martial qui sied à un homme fidèle au souvenir de son régiment. Il avait maintenant la voix rauque, il était devenu sarcastique et se complaisait à des propos désagréables. Il appelait cela « être franc ». Ils avaient depuis longtemps calculé leur commission, y compris la dernière tractation de cette infâme Macola. Ils avaient résolu de ne souffler mot de l'affaire. D'abord, Kayerts hésita, il craignait le directeur. « Il en a vu bien d'autres, en douce, » déclara Carlier avec un rire rauque. « Fiez-vous à lui. » « Il ne vous saura aucun gré de divulguer la chose. Il ne vaut pas mieux que vous ou moi. Qui parlera si nous nous taisons? Il n'y a personne ici. » C'était là la cause même de tout le mal. Il n'y avait personne, et livrés à eux-mêmes en face de leur faiblesse, ils devenaient de jour en jour plus semblables à deux complices qu'à deux amis. Il y avait 8 mois qu'ils n'avaient reçu de nouvelles de chez eux. Chaque soir, ils disaient « Le vapeur arrivera demain ». Mais l'un des vapeurs de la compagnie s'était échoué, mais le directeur était occupé avec l'autre, à relever des postes éloignés et importants sur le fleuve principal. Il pensait que ce poste inutile et ses agents inutiles pouvaient attendre. Pendant ce temps, Kayerts et Carlier vivaient de riz cuit sans sel et maudissaient la compagnie, toute l'Afrique et le jour qui les avait vus naître. Il faut avoir connu pareil régime pour comprendre quel supplice peut devenir la nécessité d'absorber chaque jour de la nourriture. Il n'y avait littéralement plus rien d'autre au poste que du riz et du café. Il buvait le café sans sucre. Kayerts avait solennellement mis sous clé, dans sa malle, les 15 derniers morceaux, ainsi qu'une demi-bouteille de cognac. En cas de maladie, avait-il expliqué. Carlier avait approuvé. Quand on est malade, avait-il dit, le moindre petit extra est un réconfort. Ils attendaient. Les mauvaises herbes commençaient à envahir la cour. On ne sonnait plus jamais la cloche. Les jours passaient, silencieux, exaspérants et interminables. Quand les deux hommes parlaient, ils grognaient, et leur silence était amer, comme imprégné de toute l'amertume de leurs pensées. Un jour, après un repas de riz bouilli, Carlier reposa sa tasse sans y toucher. « Au diable cette saleté ! Pour une fois, buvons une bonne tasse de café. Sortez le sucre, Kayerts. »« C'est pour les malades, » murmura Kayerts sans lever les yeux. « Pour les malades, » ricana Carlier. « Eh bien, je suis malade. »« Vous n'êtes pas plus malade que moi, et je m'en passe, » répondit Kayerts d'un ton calme. « Allons, sortez-nous le sucre, vieil avare, trafiquant d'esclaves. » Kayerts leva brusquement les yeux. Carlier souriait avec une visible insolence. Et soudain, Kayerts crut n'avoir jamais vu cet homme auparavant. Qui donc était-il? Il ne savait rien de lui. De quoi était-il capable? Une violente émotion s'empara de lui, comme en présence de quelque chose d'inattendu, de dangereux, de décisif. mais il s'efforça pourtant de répondre avec calme « C'est là une plaisanterie de très mauvais goût. Ne la répétez pas. » « Une plaisanterie ?» dit Carlier en se soulevant sur son siège. « J'ai faim. Je suis malade. Je ne plaisante pas. Je déteste les hypocrites. Vous êtes un hypocrite. Vous êtes un marchand d'esclaves. Je suis un marchand d'esclaves. Il n'y a que des marchands d'esclaves dans ce sacré pays. J'entends avoir du sucre dans mon café aujourd'hui, en tout cas. » « Je vous défends de me parler sur ce ton, » répliqua Caillers d'un air résolu. « Vous, quoi ?» cria Carlier en se dressant sur ses jambes. Caillers se mit debout également. « Je suis votre chef, » commença-t-il en essayant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Quoi ?» hurla l'autre. « Qui est le chef ? Il n'y a pas de chef ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien que vous et moi. Allez chercher le sucre, espèce d'enflé. Taisez-vous. « Sortez d'ici !» cria Caillers. « Je vous révoque, gredin !» Carlier brandit un escabeau. Il devint tout d'un coup sérieusement agressif. « Tiens, attrape ça, espèce de propre ardien, Pékin en baudruche » hurla-t-il. Caillers se baissa sous la table et l'escabeau alla frapper le mur de bambou. Puis, comme Carlier essayait de renverser la table, Caillers fit un bond, tête baissée, comme une bête traquée, et bousculant son camarade, se précipita sur la véranda et de là dans sa chambre. Il ferma la porte à clé, saisit son revolver et attendit haletant. Moins d'une minute après, Carlier se mit à donner de furieux coups de pied dans la porte en hurlant « Si vous n'apportez pas le sucre, je vous tue immédiatement, comme un chien. Maintenant, un, deux, trois. Vous ne voulez pas? Vous allez voir qui est le maître. » Caillard crut que la porte allait céder. Il se hissa dans l'ouverture carrée qui servait de fenêtre à sa chambre et se laissa glisser dehors. De cette façon, il y avait entre eux toute l'étendue de l'habitation. Mais l'autre apparemment n'avait pas eu la force d'enfoncer la porte et Caillers l'entendit faire en courant le tour de l'habitation. Il se mit lui aussi à courir péniblement sur ses jambes enflées. Il courait de toutes ses forces tout en serrant son revolver et incapable de comprendre encore ce qui lui arrivait. Il vit successivement la maison de Makola, le magasin, le fleuve, le ravin et les buissons, et il revit toutes ces choses en courant une seconde fois autour de la maison. Puis de nouveau elles disparurent brusquement. Ce matin, il n'aurait pas pu faire deux pas sans crier. Et maintenant il courait. Il courait assez vite pour être hors de la vue de l'autre homme. Et comme, affaibli et désespéré, il pensait « Je vais mourir avant d'avoir achevé le prochain tour », il entendit l'autre trébucher lourdement, puis s'arrêter. Il s'arrêta aussi. Il occupait l'arrière et Carlier le devant de la maison, comme auparavant. Il l'entendit qui se laissait tomber dans un fauteuil en jurant, et soudain il sentit ses jambes céder et il se trouva assis par terre, le dos appuyé contre le mur. Il avait la bouche sèche comme de la cendre, et son visage ruisselait de sueur et de grosses larmes. Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Il pensa que ce n'était qu'une horrible illusion. Il pensa qu'il rêvait. Il pensa qu'il devenait fou. Au bout d'un moment, il reprit ses sens. À propos de quoi, cette querelle ? À propos de ce sucre. C'était insensé. Il le lui donnerait. Il n'en avait lui-même aucun besoin. Et il essaya de se mettre sur pied avec un sentiment soudain de sécurité. Mais avant qu'il ne se fût relevé, une réflexion dictée par le bon sens le rejeta dans le désespoir. « Si je cède à cette brute de soldat, » pensa-t-il, « il recommencera cette abomination demain, et le jour suivant, et le jour d'après. Il aura d'autres prétentions, me marchera dessus, me torturera, fera de moi son esclave, et je serai perdu, perdu. Le vapeur peut ne pas arriver d'ici des jours, peut ne jamais arriver. » Il tremblait au point qu'il dut de nouveau s'asseoir par terre. Il frissonnait de désespoir. Il sentit qu'il ne pourrait plus... qu'il ne voudrait plus faire un mouvement. Il était complètement affolé par la découverte soudaine que la situation était sans issue, que la vie ou la mort était devenue en un instant également difficile et redoutable. Aussitôt après, il entendit l'autre repousser son fauteuil et il se remit sur pied avec une extrême facilité. Il tendit l'oreille, hésitant. Il fallait courir de nouveau, à droite ou à gauche. Il entendit des pas, il fit un pas à gauche, en serrant son revolver, et au même instant, lui sembla-t-il, Ils se heurtèrent violemment l'un contre l'autre. Ils poussèrent ensemble un cri de surprise. Une violente détonation retentit entre deux. Un éclat de feu, de la fumée épaisse, et Kayers, assourdi et aveuglé, fit un bond en arrière. « Je suis touché, » pensa-t-il, « tout est fini. » Il s'attendait à voir l'autre s'approcher et se repaître de son agonie. Il s'accrocha à l'un des montants du toit en répétant « tout est fini ». Il entendit alors le fracas d'une chute de l'autre côté de la maison, comme si quelqu'un était tombé la tête la première par-dessus un fauteuil. Puis il n'entendit plus rien. Rien ne se produisit d'autre. Il n'était pas mort. Son épaule seulement lui faisait mal, comme si elle avait été luxée, et il avait perdu son revolver. Il était désarmé et impuissant. Il attendit son destin. L'autre ne faisait aucun bruit. C'était un stratagème. Il le guettait maintenant. De quel côté? Peut-être qu'il le visait à cet instant même. Après quelques moments d'une agonie effroyable et absurde, il se décida à affronter sa destinée. Il était prêt à capituler. Il tourna le coin en s'appuyant d'une main au mur, fit quelques pas et manqua s'évanouir. Il avait aperçu par terre, dépassant l'autre coin, deux pieds la pointe en l'air, deux pieds blancs, nus et dans des pantoufles rouges. Le cœur lui tourna et il demeura immobile un moment, hébété. Au même instant, Makola apparut devant lui en disant tranquillement « Venez, monsieur Kayerts, il est mort ». Le sentiment de sa délivrance le fit éclater en sanglots violemment. Un moment après, il se vit assis dans un fauteuil et contemplant Carlier qui gisait étendu sur le dos. Makola, à genoux, se penchait sur le corps. « Est-ce votre revolver ?» demanda Makola en se relevant. « Oui, » dit Kayerts. Puis il ajouta précipitamment « Il courait après moi pour me tuer. Tu l'as vu ?»« Oui, je l'ai vu, » dit Makola. « Il n'y a qu'un revolver. Où est le sien ?»« Je ne sais pas, » murmura Kayerts d'une voix devenue soudain très faible. « Je vais le chercher, » dit le nègre doucement. Il fit le tour le long de la véranda, tandis que Kayerts, immobile, regardait le cadavre. Makola revint les mains vides, demeura un moment pensif, puis se dirigea d'un pas tranquille vers la chambre du mort, et revint aussitôt après avec un revolver qu'il tendit devant Kayerts. Celui-ci ferma les yeux. Tout tournait devant lui. La vie lui parut plus terrible et plus difficile que la mort. Il avait tué un homme désarmé. Makola, après être resté un moment songeur, se mit à dire, en désignant l'homme qui gisait là, l'œil droit emporté, « Il est mort de la fièvre. » Kayerts regarda Makola pétrifié. « Oui, » reprit Makola, qui suivait son idée tout en enjambant le cadavre, « je pense qu'il est mort de la fièvre. On l'enterrera demain. » Et il s'éloigna à pas lents pour rejoindre sa femme qui l'attendait et laissa les deux blancs seuls sur la véranda. La nuit tomba et Kayerts demeura toujours immobile sur son siège, immobile comme sous l'empire de l'opium. La violence des émotions qu'il avait subies faisait place maintenant à un sentiment d'indicible sérénité. En un simple après-midi, il avait sondé des abîmes d'horreur et de désespoir, et maintenant il trouvait le repos dans la conviction que la vie n'avait plus de secret pour lui, la mort non plus. Assis près du cadavre, il restait à penser activement, à remuer des pensées toutes nouvelles. Il semblait s'être dégagé complètement de lui-même. Ses anciennes idées, ses convictions, ses goûts et ses aversions, les choses qu'il respectait, celles qu'il détestait, lui apparaissaient enfin sous leur vrai jour. Elles lui apparaissaient comme des choses méprisables et puériles, fausses et ridicules. Il savourait sa nouvelle sagesse, assis près de l'homme qu'il avait tué. Il discutait toutes choses avec lui-même, avec cette sorte de lucidité extravagante qu'on peut remarquer chez les fous. Incidemment, il se disait que ce mort n'avait été en somme qu'un animal nuisible. Que les hommes meurent chaque jour par milliers, peut-être par centaines de mille, qui pourrait le dire, et que, dans le nombre, un mort de plus ou de moins ne pouvait faire de différence, ne pouvait avoir d'importance, du moins pour une créature pensante. Lui, Kayerts, était un être pensant. Jusqu'alors, il avait cru, toute sa vie, à une quantité d'absurdités comme le reste de l'humanité, êtres absurdes, mais maintenant il pensait. Il savait. Il était rassuré. La plus haute sagesse lui était familière. Alors il essaya de se figurer une fois mort, et Carlier assis dans son fauteuil le contemplant. Et il y réussit si bien que bientôt il ne sut plus vraiment lequel était mort et lequel était vivant. Cette extraordinaire réussite de son imagination l'effraya. Pourtant, et par un heureux effort de son esprit, il réussit à ne pas devenir Carlier. Son cœur battait à se rompre, et une chaleur subite l'envahit tout entier à la pensée de ce danger. Carlier, quelle chose absurde! Pour calmer ses nerfs exaspérés, et il y avait de quoi, il essaya de siffloter. Puis soudain il s'endormit, ou crut qu'il s'était endormi. Mais en tout cas un brouillard l'enveloppait, et quelqu'un avait sifflé dans le brouillard. Il se leva. Le jour était venu, et une brume épaisse s'étendait sur le sol, une brume pénétrante, enveloppante et silencieuse. La brume matinale des pays tropicaux. La brume qui s'accroche et qui tue. La brume blanche et mortelle, immaculée et empoisonnée. Il se leva, aperçut le corps, et leva les bras au ciel avec un cri pareil à celui d'un homme qui, s'éveillant d'une transe, se trouverait à jamais muré dans une tombe. « Au secours, mon Dieu !» Soudain, un appel déchirant et inhumain perça comme un dard aigu le blanc linceul de cette terre de désolation. Trois cris brefs et impatients suivirent. Puis les nappes de brouillard s'étendirent à leur gré dans un effroyable silence. De nouveaux appels, rapides et perçants, comme les cris d'une créature impitoyable et exaspérée, fendirent l'air. Du milieu du fleuve, le progrès appelait Kayertz. Le progrès et la civilisation et toutes les vertus. La société réclamait le fils de son œuvre pour prendre soin de lui. Pour l'instruire, pour le juger, pour le condamner. Elle lui intimait de retourner vers cet amas de préjugés qu'il avait fui, afin que justice fût faite. Kayertz entendit et comprit. Il sortit en chancelant de la véranda, laissant l'autre homme complètement seul pour la première fois depuis que le sort les avait rassemblés là. Il marcha à tâtons à travers le brouillard, et, dans son ignorance, il implorait le ciel invisible de défaire son ouvrage. Makola passa rapidement près de lui dans la brume, et cria tout en courant « C'est la vapeur! C'est la vapeur! Il ne voit rien! Il siffle pour le poste! Je vais sonner la cloche! Descendez à l'embarcadère, monsieur! Je vais sonner !» Il disparut. Kayertz demeura immobile. Il regarda en l'air. Le brouillard roulait très bas au-dessus de la tête. Il regarda tout autour de lui comme un homme qui a perdu son chemin. Et il aperçut une forme sombre, une tache en forme de croix, sur la pureté mouvante de la brume. Au moment où il s'en approchait en trébuchant, la cloche du poste commença à répondre par une tumultueuse volée à l'impatiente clameur du vapeur. Le directeur de la grande compagnie civilisatrice, la civilisation, on le sait, suit le commerce, débarqua le premier et perdit immédiatement de vue le bateau. La brume en bas, près du fleuve, était extrêmement dense. Un peu plus haut, près du poste, la cloche carillonnait sans relâche. Le directeur cria à tue-tête dans la direction du vapeur « Personne ne vient à notre rencontre. Il a dû arriver quelque chose. Pourtant, on sonne. Vous feriez mieux de venir avec moi. » Et il se mit à escalader la berge. Le capitaine et le mécanicien le suivirent. Pendant qu'ils montaient, la brume s'éclaircit et ils pouvaient distinguer leur directeur à une bonne distance devant eux. Tout à coup, ils le virent faire un bond en avant, en leur criant par-dessus son épaule « Vite, vite à la maison, j'en ai trouvé un. Vite, cherchez l'autre. » Il en avait trouvé un. Et même lui, cet homme qui avait eu des aventures variées et sensationnelles, fut quelque peu décontenancé par sa découverte. Il s'arrêta et chercha dans ses poches pour y trouver un couteau, tandis qu'il voyait devant lui Kayertz pendu à la croix au bout d'une lanière de cuir. Il avait dû évidemment escalader la tombe étroite et élevée, et après avoir assujetti sa ceinture à l'une des branches de la croix, il s'était lancé dans le vide. Ses pieds touchaient presque le sol. Ses bras raidis pendaient le long de son corps. Il semblait figé au garde-à-vous, mais l'une de ses joues, violacée, reposait d'un air badin sur son épaule, et fort irrévérencieusement, il tirait une langue épaisse à son directeur. Joseph Conrad. Traduction G. Jean Aubry.